Bienvenue aux Apatrides Anonymes sur choc.ca. Marie-Ève à l'animation pour cette édition du 20 février 2025. Je serai en quelque sorte votre guide tout au long de ce voyage autour du monde.
Ouh, c'est excitant!
En passant par ici, bien sûr, aussi, pour parler d'enjeux migratoires, de racisme et de lutte pour y faire barrage, de droits de la personne, de régime autoritaire et de résistance populaire, et de questions qui touchent au peuple autochtone. Je suis toujours accompagnée de Mathieu et Simon, qui vont tous les deux être bien en verve, j'en suis sûre, comme à leur habitude. Bonjour à vous deux.
On l'espère. Bonjour, content de vous retrouver.
Oui, je suis en très grande forme, Marie-Ève.
Bon, parfait, ça, parce qu'on a du pain sur la planche. Mathieu, toi qui es pour l'instant à la console, tu vas traiter d'enjeux migratoires sur les scènes provinciales et fédérales.
Surtout provinciales, parce que ça va pas bien, là.
Non, c'est vrai. Non. Tu t'es aussi approprié mon précaré, comme on dit, c'est-à-dire les actualités françaises.
Vive la République!
Simon, lui, qui est avec moi en studio, va entre autres nous parler des crises et des conflits à surveiller dans le monde.
Oui, cette crise humanitaire à surveiller en 2025... Qui ont cours actuellement, forcément.
Sept parmi d'autres, oui, c'est
ça. Oui, on aurait pu en nommer une vingtaine, peut-être. Là, mais...
Et de mon côté, ben, je vais aborder la sous-représentation des Autochtones dans les médias, les façons dont l'intelligence artificielle est utilisée pour contrôler l'immigration en Europe et aussi des horreurs que subissent les personnes migrantes en Libye. Donc, dans quelques secondes, je vous reviens avec Simon pour parler de racisme systémique et ordinaire.
Voilà.
Avant de céder le micro à Simon, je voulais revenir brièvement sur une nouvelle qui est un peu passée sous le radar. Peut-être que vous connaissez ces boîtes à livres. Je ne sais pas pourquoi je mets des R partout aujourd'hui. Ces boîtes à livres communautaires gratuites que l'on peut...
Des croque-livres.
Ouais. Ah, c'est comme ça s'appelle?
Oui, c'est le nom officiel dans le site de la ville.
Ah, c'est joli. Ben, en tout cas, c'est ce qu'on peut voir là, en bordure de trottoir dans certaines villes. On peut y déposer, par exemple, un livre qu'on a reçu en cadeau, en prendre un autre qui nous plaît peut-être davantage. Bon, donc tout ça fait qu'on y trouve un peu de tout, là, du livre de cuisine au roman de Daniel Steele, en passant par de la psychopop. Eh bien, figurez-vous que la police d'Ottawa enquête actuellement sur des livres qui font la promotion du suprémacisme blanc qu'une résidente du quartier Barrhaven a trouvé dans plusieurs de ces petites bibliothèques-là. La dame est elle-même tombée plusieurs fois sur le même livre et la CBC a pu constater qu'il avait été placé dans 7 des 10 petites bibliothèques des quartiers Barrhaven et Rivière. L'article ne mentionne pas le titre du livre en question, mais précise qu'il dénonce l'immigration et le multiculturalisme, en plus de plaider en faveur d'un État ethniquement blanc dans lequel les communautés racialisées seraient considérées comme des citoyens de seconde zone. À propos de son auteur, l'article mentionne seulement que c'est un Américain bien connu pour avoir publié des ouvrages promouvant l'idéologie nationaliste blanche. Donc, je ne sais pas si le mystère est entretenu sciemment. Le service de police d'Ottawa a ouvert une enquête sur les crimes haineux. Le conseiller municipal du quartier Barrhaven West, David Hill, lui, a une solution toute simple. Il invite ses concitoyens et concitoyennes qui, je cite, « voient ce genre de cochonnerie » à les jeter à la poubelle.
Bon, voilà.
Et bien sûr, de prévenir la police. Il encourage aussi les propriétaires de ces petites bibliothèques-là à les vérifier régulièrement. Pour la directrice du Centre sur la haine, les préjugés et l'extrémisme de l'Université Ontario Tech, Barbara Perry, le choix de ces boîtes à livres n'est pas anodin. C'est un choix qui est stratégique dans le but d'attirer l'attention, le plus d'attention possible, puis de normaliser l'idéologie suprémaciste blanche. Il y a le fondateur de l'Association afro-canadienne d'Ottawa, Hector Addison, qui est très préoccupé, d'autant que l'incident s'est produit pendant le mois de l'histoire des Noirs, hein,
ouais,
on est en février.
Donc,
une histoire bien pathétique de racisme ordinaire qui met la table pour toi, Simon.
Ouais, peut-être juste préciser. D'après moi, le choix de ne pas nommer le livre, c'est pour pas en faire la promotion.
J'imagine. Ouais.
Donc moi, je vais poursuivre dans la haine, mais au Québec maintenant, avec Paul Saint-Pierre Plamondon, qui est toujours un peu dans son délire anti-woke.
Le haineux de service.
Avec comme nouvelle cible la liberté académique. S'il est porté au pouvoir, il entend saisir le gouvernement provincial de la question en promettant de revoir les contenus qui sont enseignés aux élèves pour, dit-il, éviter les dérives idéologiques.
Il faudrait peut-être qu'il l'applique à lui-même.
Ah ben là, t'en demandes beaucoup, je pense. Donc, il martèle son message sur différentes plateformes reliées à la droite libertarienne, tu sais, des genres de radio, Internet un peu louches. Il recommande des pseudo-documentaires extrêmement douteux. Il donne des exemples de dérives woke qui sont fausses ou inexactes. Il diffame massivement une grande partie des professeurs en les accusant d'être militants, idéologues, intimidateurs et contre la science.
Ben oui.
Parce que lui est pour la science, bien sûr. Donc, on remercie le média indépendant Pivot.Québec qui a débunké une à une les demi-vérités de Paul Saint-Pierre Plamondon, notamment cette fausse nouvelle en lien avec une soi-disant journée sans blanc au Collège Evergreen dans l'État de Washington. Une fake news qui est reprise partout dans la fachosphère, dans sa version incomplète et en grande partie inventée. Je recommande la lecture de l'article « Oui, PSPP a véhiculé des informations trompeuses », qui est en réplique à un porte-parole du PQ qui accusait Pivot de désinformation.
Ouais, j'ai vu ça.
Donc, par médias interposés, ils se sont renvoyés la balle, mais Pivot un petit peu plus solide dans sa documentation, ses références et son argumentaire. Alors, bravo PSPP qui s'enfonce toujours plus dans la médiocrité et qui, sous couvert de combattre la culture de l'annulation, paradoxalement, il veut l'institutionnaliser, cette culture de l'annulation, comme on le voit dans le Trumpisme triomphant actuellement. Toujours en lien avec l'indépendance académique dans l'univers des cégeps anglophones de Montréal, il y a des enseignants et des représentants syndicaux des collèges Dawson et Vanier qui s'inquiètent de l'ingérence du ministère de l'Enseignement supérieur, qui a décidé d'enquêter sur un possible climat académique tendu en raison du génocide à Gaza, et même sur le contenu de certains cours que la ministre responsable Pascale Derry a exigé de valider personnellement. Ce qui est exceptionnel et contraire aux pratiques normales, les établissements collégiaux ayant déjà tous les outils et les pouvoirs nécessaires pour gérer les plaintes des enseignants et des étudiants, si plaintes il y a évidemment, et si elles sont fondées. Je rappelle que Mme Derry fait partie d'un gouvernement qui a forcé l'adoption d'une loi sur la liberté académique pour pouvoir continuer d'utiliser librement le mot en haine. Et maintenant, elle contrevient à sa propre loi aussitôt qu'on utilise les mots Palestine ou génocide.
Ouais, donc, les mots en G.
C'est ça. Donc, il va falloir régulièrement suspendre la loi, la réappliquer, la resuspendre, dépendamment de quelles plaintes sont reçues. Pascale Derry qui non seulement nage dans les contradictions, mais en plus, elle est dans une position conflictuelle. Elle a récemment été administratrice pendant plusieurs années du CIJA, le Centre consultatif des relations juives et israéliennes, Bureau du Québec, qui est une des organisations qui a justement milité pour la tenue de cette enquête et pour doper le phénomène des plaintes pour antisémitisme dans le contenu de certains cours, avec des profs qui en sont rendus à témoigner anonymement à des journalistes qu'enseignaient certaines réalités politiques actuelles ou historiques au Proche-Orient. Des faits pourtant avérés, vérifiables, c'est rendu très délicat et ça fait régulièrement l'objet de plaintes. Alors que pendant qu'on cherche à faire du révisionnisme, pendant ce temps-là, le véritable antisémitisme qui existe bel et bien, on le combat pas puisqu'on met nos énergies pour s'attaquer à l'histoire et à l'enseignement.
Ben oui.
Donc, Mme Derry, surtout sachant son apparence flagrante de conflit d'intérêts, je pense que la meilleure posture à adopter pour elle, ce serait qu'elle enlève ses pattes de la gestion interne des établissements collégiaux et qu'elle les laisse faire leur travail, ou même qu'elle démissionne, comme le réclame de plus en plus de monde, dont, je pense, tous les partis sauf le PQ à l'Assemblée nationale.
Sauf PSPP.
Oui, ben lui, ben il est occupé à combattre les woke. Donc, je vais terminer mon segment racisme québécois en Abitibi, un dossier où le gouvernement aurait pu, ou même dû, procéder à une enquête, voire une tutelle, mais dans ses valeurs à géométrie variable, on a décidé de rester les bras croisés. Je fais référence à toute une série d'articles dans Le Devoir qui... série qui est à lire sur des étudiants infirmiers africains qui subissent racisme et intimidation de manière presque systématique dans le cadre du programme de recrutement d'infirmières et d'infirmiers à l'étranger. Des insultes racistes qui ne viennent pas nécessairement de là où on s'y serait attendu, donc non pas spécialement des élèves, mais ce serait surtout proféré par le personnel hospitalier et par des enseignants du cégep de l'Abitibi-Témiscamingue. Et encore plus troublant, ce climat de racisme déborderait jusqu'aux enfants des participants du programme dans les services de garde.
Okay.
Il y a la table de concertation des organismes au service des personnes réfugiées et immigrantes qui a envoyé un rapport très détaillé de la situation au ministre de l'Éducation, Jean-François Roberge. Je te laisse le qualifier comme tu veux, là. Un autre très utile. D'abord, dans le rapport, on attribue le taux anormalement élevé d'échecs, entre autres à ce climat de haine et d'intimidation, mais pas seulement. Au-delà des propos dégradants, on dénonce aussi les doubles tâches cumulées d'infirmiers et de préposés imposées aux étudiants africains. On dénonce aussi le fait que, contrairement à ce qui est prévu, plusieurs se sont vus refuser une reprise d'examen suite à un échec, ce qui leur faisait perdre automatiquement leur statut d'étudiant étranger et la possibilité de travailler. On dénonce aussi l'encadrement déficient, souvent moindre que ce dont bénéficie la majorité, la planification bâclée du programme, le manque criant de ressources en logement, le manque d'informations générales transmises aux participants, qui souvent sous-évaluaient les coûts reliés à leur installation au Québec, allant jusqu'à faire craindre pour certains d'entre eux et d'entre elles des situations d'itinérance, avec des témoignages qui parlent aussi de pensées suicidaires. Donc, un gros portrait fait par cette table de concertation, très détaillé, très, très lourd. Et les réponses de Québec à ce rapport demeurent à ce jour plutôt inexistantes. Mais on est parfois rapide sur la gâchette. Il y a Roselyne Koa-Dzana, assistante-chef au CI3S de l'Abitibi-Témiscamingue, qui, après avoir publié des statuts sur les réseaux sociaux qui dénonçaient ce climat pourri, elle a été congédiée.
Ah oui, tiens, rien de moins.
Rien de moins. Quand les autorités décident d'agir, elles le font, mais pas toujours de la bonne façon, disons.
Est-ce qu'on sait la décision est venue de où?
Ben, elle vient de la direction du CI3S. Okay. Je ne sais pas s'il y a eu intervention ministérielle. Les syndicats sont très fâchés, mm-hmm. bien sûr. Et c'est une dame qui est très appréciée dans son milieu aussi. Évidemment, elle va se battre et on lui souhaite bonne chance, ainsi qu'à l'ensemble des étudiants infirmiers africains, pas juste en Abitibi, mais également en Gaspésie, puisque comme la parole se libère, on apprenait il y a quelques jours que la situation dans le même programme de recrutement est aussi dénoncée en Gaspésie. Et quelque chose me dit qu'il y aura d'autres révélations concernant d'autres régions du Québec. Je vous recommande, pour revenir à la liberté académique, en général, soit dans les cégeps ou anglophones à Montréal ou dans ce programme de recrutement, texte de Rima El-Khoury qui s'appelle « Liberté, j'écris ton nom quand ça me tente ».
Oui, c'est ça.
Donc, ça résume bien ce que font les ministres, selon
ouais.
moi, actuellement.
Oui.
Voilà pour le segment racisme.
Eh bien, mais ça boucle la boucle. Mais vous allez voir qu'on va parler de racisme pas mal tout au long de l'émission. On écoute mm-hmm. quelques notes de musique et je vous reviens avec d'autres exemples de racisme. Alors oui, vous écoutez toujours les Apatrides anonymes sur choc.ca. On venait de parler de racisme, on va continuer parce que le racisme systémique a ceci de particulier que si les Autochtones et les personnes racisées par ailleurs sont surreprésentées en milieu carcéral, par exemple, c'est tout le contraire dans le milieu médiatique. Il y a l'Association canadienne des journalistes qui a sondé 270 médias numériques et imprimés de la radio et de la télévision au Canada. Il faut savoir que 60 % des 715 salles de presse invitées n'ont pas participé à l'étude. Ah. L'association a recueilli et classé des données en fonction là, du genre, de l'origine ethnique et du rôle de 5806 journalistes au pays. Selon l'enquête, près de 7 salles de nouvelles sur 10 au Canada n'ont employé aucun journaliste autochtone en 2024. Et les Autochtones ne formaient que 3,5 % des journalistes. Je rappelle qu'au Canada, les Autochtones représentent à peu près 5 % de la population. C'est un pourcentage qui est scandaleusement bas, mais qui est même en diminution, puisque entre 2021 et 2023, les journalistes canadiens comptaient entre 5 et 6 % d'Autochtones.
Et on sait ce qui s'est passé ou j'imagine qu'on n'a pas d'explication pour ça?
On n'a pas vraiment d'explication. Il y en a qui disent que c'est parce que c'est pas toutes les salles de presse qui ont participé. Peut-être que si toutes les salles de presse auraient... Bref, mais ouais. Le portrait n'est pas très reluisant. Puis avec ces données-là, ben on se surprendra donc pas que les Autochtones soient encore moins nombreux à exercer des fonctions de responsables. Il constitue que seulement 2,4 % des gestionnaires de salles de presse. À peine 30 % des médias d'information comptent au moins une personne autochtone ou issue d'une minorité visible dans ses trois principaux dirigeants, une statistique qui n'a pas bougé du tout par rapport à 2023. La catégorie stagiaire est la seule où les journalistes autochtones ou racisés sont plus nombreux que les journalistes blancs.
C'est pas payé, là.
Ce qui veut dire que les stages aussi, ben non seulement c'est pas payé, mais ça veut dire que les stages se transforment pas en emploi à long terme,
qui est
quand même l'objectif d'un stage. Selon l'enquête, les salles de nouvelles qui emploient le plus grand nombre de journalistes autochtones ou racisés sont celles qui ont une grande équipe et qui s'adressent à un public national. C'est le cas de APTN News et de Global News, qui à eux seuls ont employé plus des deux tiers des journalistes autochtones au pays. Puis parmi les médias francophones, c'est le quotidien d'Ottawa-Gatineau, le droit qui sort du lot, avec 4,2% d'Autochtones parmi ses artisans de l'information. Mmh. En revanche, il représente moins de 1% à Radio-Canada et zéro au quotidien La Presse, à l'agence La Presse canadienne et à la revue Châtelaine.
Oh, Châtelaine existe encore.
Sur ce, on va aller en musique avec l'artiste Wendat Sandrine Mass avec sa pièce « To'iyoti » qui est tiré de son plus récent album « Là où la terre est », paru en octobre dernier, qui figure actuellement au 23e rang du palmarès local de Choc. Il faut souligner que Sandrine Mass a remporté cette semaine même la bourse Karim Ouellet d'une valeur totale de 10 000 $. Donc après Valence, elle est la deuxième récipiendaire de cette bourse qui a été créée en septembre 2023 par le grand conjointement là par le Grand Théâtre de Québec, la Ville de Québec, Solothèque et de la Létourneau. Vous aurez deviné avec le nom que c'est pour rendre hommage à Karim Ouellet. La bourse comprend 2 500 $ en service chez Solothèque et 2 500 $ en banque d'heures chez la boîte de communication de la Létourneau, ainsi qu'une prestation rémunérée au Grand Théâtre de Québec dans l'année suivant l'obtention de la bourse. Donc, félicitations à Sandrine Mass et on écoute la pièce « To'iyoti ».
Hey, yeah, hey. tout rien dit. On roi à ta tête, y'a ta tioc. Ça c'est une lane d'étain. On voit de sang joie.
Vous êtes toujours sur les ondes de choc.ca et vous écoutez les Apatrides Anonymes, mais on retrouve Mathieu.
Oui.
Alors,
présent.
Tu nous parles d'immigration provinciale, surtout.
Bien, hein, les enjeux provinciales, ça peut toucher un peu le fédéral, mais c'est vraiment toutes les petites coupures, restrictions qui sont faites par le MIFI depuis quelques mois, un petit peu,
sans que les médias. Le MIFI étant le ministère.
International. Ministère de l'Immigration, de la Francisation. Et de l'intégration. C'est un peu comme le projet de loi là, qui a été déposé il y a quelques semaines. Fait que beaucoup de petites choses qui passent un peu inaperçues. Premièrement, ben ça, on avait entendu parler, les mesures favorisant l'intégration et la réussite des immigrants ainsi que la réussite éducative des Autochtones sont mises sur pause, a confirmé le ministère de l'Éducation là, à la fin janvier. Au total, une quinzaine de mesures figurent dans la liste que le ministère a fait parvenir aux directeurs généraux des centres de services scolaires à la mi-décembre. Parmi les autres mesures, en plus des Autochtones et des immigrants, parmi les autres mesures retirées des règles budgétaires à compter de 24-25, donc l'année en cours, les projets jeunesse en changement climatique et l'initiation des élèves secondaires à la démocratie parlementaire.
Ben oui, on s'en sacre, la démocratie.
Ça en occupera plus tard.
Ben ouais.
Par ailleurs, l'abandon de la mesure de soutien pour les Autochtones, qui permettait notamment de financer des activités de vivre ensemble, affectera particulièrement l'Abitibi et la Côte-Nord.
Je sais pas ce qui se passe là-bas.
Ben oui, on vient d'en parler.
Il y a des émanations de la fonderie 1, je pense, qui affectent un petit peu.
Je cite Corina Bory-Anadon, professeure au département des sciences de l'éducation à l'UQTR. Ces élèves-là vont devoir vivre dans un monde où on aura à poursuivre nos efforts de réconciliation avec les premiers peuples, à gérer la crise climatique, à trouver une façon de vivre dans une société ensemble. Je ne vois pas comment on peut s'en sortir sans ces activités. Les diplômés étrangers, ça va pas bien ça non plus. L'enquête nationale de Statistique Canada auprès des diplômés a examiné le taux d'emploi de plus de 83 000 étudiants internationaux diplômés en 2020 au Canada, qui sont restés ensuite ici, qui n'ont pas poursuivi d'études, donc qui ont essayé de travailler. L'enquête indique qu'un peu plus du tiers des diplômés internationaux titulaires d'un baccalauréat occupaient des emplois nécessitant effectivement ce diplôme universitaire, compte 60% chez l'ensemble des Canadiens.
OK.
Cela peut expliquer pourquoi le revenu annuel médian des étudiants internationaux titulaires d'un baccalauréat est inférieur de 20% au niveau médian de tous les diplômés canadiens.
Ah, c'est beaucoup quand même, 20%.
Quand même, 20%, oui. L'enquête a également révélé que les diplômés internationaux sont plus de 3 fois plus susceptibles de travailler dans les secteurs des ventes et des services que dans leur domaine d'études que leurs homologues canadiens. André Côté, directeur des politiques publiques et de la recherche à l'Université métropolitaine de Toronto, a coécrit un rapport invitant les gouvernements et les établissements d'enseignement supérieur à revoir la gestion des programmes destinés aux étudiants étrangers après la réduction importante du nombre de visas d'étudiants qui seront octroyés au cours des 2 prochaines années. Ça, c'est le fédéral. Je le cite, « Les universités et les établissements d'enseignement supérieur devraient en faire beaucoup plus. Ces étudiants paient des frais considérable pour pouvoir étudier ici.
Ouais.
Nos institutions peuvent certainement en faire plus pour les préparer à réussir dans leur vie professionnelle par la suite. » Sinon, toujours les étudiants étrangers, Marie-Ève, avant même que Québec ne rende public les plafonds étudiants, parce que le Québec va le faire aussi, là, les plafonds d'étudiants étrangers dans les universités québécoises, les demandes d'admission provenant de l'extérieur du pays sont déjà en chute libre dans certaines universités. Bien que le ministre de l'Immigration, en François Raberge, est promis d'épargner les programmes en région. Des voix s'étaient élevées de partout réclamant...
Ben, peut-être pas en Abitibi.
Ouais, c'est vrai. Et en Gaspésie. Des voix s'étaient élevées de partout réclamant, entre autres, qu'il évite d'imposer des quotas pour les étudiants de deuxième et troisième cycle universitaire qui sont au cœur de la recherche scientifique québécoise. Il faut savoir que les institutions universitaires québécoises accueillent un peu plus de 56 000 étudiants internationaux, soit 18 % de la population, qui est de 306 000. La moitié, 51 % de ces étudiants internationaux sont au deuxième et troisième cycle. Sur le lot, 6 établissements universitaires comptent plus de 25 % d'étudiants internationaux parmi leur effectif étudiant total. Donc, voilà, ça c'est quand même assez impressionnant. Sinon, ben, les universités comptant des forts contingents d'étudiants étrangers craignent donc de se retrouver avec d'importants manques à gagner, ben autant oui. financiers qu'au niveau de leur population. Oui. Sinon, côté des travailleurs, Marie-Ève, ça va pas bien non plus. Pour devenir résident permanent, les travailleurs temporaires québécois doivent désormais prouver que l'entreprise pour laquelle ils ont travaillé à temps plein se trouve au Québec. Des avocats en immigration et leurs clients dénoncent cette nouvelle façon d'interpréter les critères du PEC, Programme de l'expérience québécoise, qui, en plus d'être injuste, selon eux, ne servirait qu'à réduire le nombre de personnes admissibles. Je cite un avocat. On voit de plus en plus que le MIFI essaie par tous les moyens de réduire le bassin de candidats qui sont sélectionnés par le Québec, bien qu'ils répondent aux critères. Avec des collègues, il dit avoir constaté que plusieurs candidats à la résidence permanente par le biais du PEC se sont fait refuser leur certificat de sélection du Québec, CSQ, sous l'unique prétexte que leur entreprise ne se trouve pas au Québec. Un exemple pour bien comprendre. Ouais. Français d'origine, Sophia Nieto a reçu une lettre d'intention de refus du MIFI parce que l'entreprise pour laquelle il a toujours télétravaillé depuis le Québec était basée ailleurs au Canada. Il s'étonne qu'on s'intéresse à l'endroit où est située l'entreprise pour laquelle il travaille puisque cela n'avait pas du tout posé problème lorsqu'il avait demandé un permis de travail fermé.
Ouais.
Le MIFI lui avait délivré son certificat d'acceptation du Québec, le CAC, étape préalable pour pouvoir avoir un permis et travailler au Québec et semblait ainsi reconnaître de facto qu'il était un travailleur québécois. Sur mon permis de travail, c'était bien écrit que mon lieu de travail était à Montréal. Si j'avais voulu travailler ailleurs qu'au Québec, je n'aurais même pas pu avec mon permis de travail fermé. Ça. Fait que c'est vraiment des nouveaux critères pour éliminer des gens là, tu sais, de la possibilité de devenir résident permanent.
Oui, Simon?
Non, mais j'allais dire que la CAQ délivre pas beaucoup de CAQ, si je comprends bien.
Oui, ben bon jeu de mots, Simon.
Tu m'as inspiré, là.
C'est un pléonasme. Donc, c'était l'avocat Marc-André Carrière, donc en droit de l'immigration, qui parlait de ça. Dernière chose sur les travailleurs, Marie-Ève.
Oui.
Au Québec, les travailleurs étrangers et leurs conjoints...
Au Québec!
Les travailleurs étrangers temporaires et leurs conjoints-conjointes ne sont plus admissibles aux services publics et communautaires à l'emploi depuis le 1er février, à l'exception des étudiants étrangers qui ont permis de travail post-diplôme.
On vient de dire qu'ils ont diminué puis qu'il en reste quasiment plus, mais bon.
Des diplômés?
Post-diplôme, qui ont un permis de travail post-diplôme.
Oui, mais ils ont le droit des services à l'emploi pour les aider à pas trouver un travail. Ben, en tout cas, tu sais, bon. Cette nouvelle a eu l'effet d'une bombe pour les organismes qui se consacrent à aider les travailleurs étrangers temporaires qui ont été informés seulement quelques jours avant la mise en application de cette mesure. Je cite Nisrine Al-Yaya, directrice générale du réseau des services spécialisés de main-d'œuvre. On ne comprend pas la raison pour laquelle on ne donnerait pas accès aux services publics à l'emploi à des personnes qui sont sur le territoire québécois, qui ont des permis de travail, qui ont le droit de travailler.
Ben oui.
Les services d'aide à l'emploi leur permettent notamment de comprendre les rouages du marché du travail au Québec, de développer un réseau et de se rendre visible auprès des employeurs potentiels, évidemment. Selon le gouvernement Legault, la situation de l'emploi a changé, notamment avec la hausse du taux de chômage, ce qui donne la possibilité aux employeurs de recruter la main-d'œuvre déjà disponible sur le territoire québécois. Fait que là, c'est des organismes communautaires là, qui font de l'aide à l'emploi. Fait qu'ils ont appris à quelques jours d'avis qu'il n'y avait plus d'argent. Puis pour plusieurs, c'est la majorité de leur population là, qui travaille. Ce sont des immigrants ou des travailleurs étrangers temporaires. Ouais. Donc, on coupe à la fois là, tu sais, les critères pour avoir le certificat de sélection du Québec. On coupe les services à l'emploi. Les étudiants internationaux ont de la misère à se trouver un emploi. Puis, on coupe aux élèves aussi secondaire, collégial, universitaire, puis travail. On coupe partout.
Ça. Là, puis c'est fait de façon complètement chaotique.
Un petit communiqué comme ça, c'est annoncé quelques jours d'avis. Fait que ça, c'est la job de Jean-François Roberge, Marie-Ève.
Un autre gnachon.
Un vrai gnachon.
Bon.
Voilà.
Sur ça, on va aller écouter quelques notes de musique. Parmi les limites et les risques déjà bien documentés de l'intelligence artificielle, on trouve bien sûr les biais discriminatoires. C'est que comme les systèmes intelligents sont entraînés par des humains, ben les humains reproduisent leurs biais et les transmettent involontairement à l'IA. L'illustration la plus concrète, ce sont les erreurs d'identification qui sont plus fréquentes pour les personnes non blanches, parce que comme elles sont sous-représentées dans les bases de données qui nourrissent l'apprentissage puis qui entraînent l'IA, ben l'IA justement va être moins fiable que lorsque elle devra, par exemple, se concentrer sur les personnes blanches. On apprenait récemment dans un article d'InfoMigrant que l'Union européenne utilise déjà une panoplie de systèmes d'IA dans ses méthodes pour contrôler l'immigration. Il y a l'European Digital Rights, un réseau d'une cinquantaine d'ONG et d'experts sur les droits et libertés numériques. Ben, eux, ils vont même jusqu'à affirmer, et je cite, que les migrations sont un laboratoire humain d'expérimentation technologique grandeur nature et que les gouvernements et les entreprises utilisent les environnements migratoires comme une phase de test pour leurs produits, pour leurs nouveaux systèmes de contrôle. Un exemple d'expérimentation, c'est le projet iBorder Control, qui est financé en partie par des fonds européens puis qui a été expérimenté dans les aéroports de Grèce, de Hongrie et de Lettonie, et qui prévoyait le déploiement de genre de détecteurs de mensonges qui se basaient sur l'analyse des émotions d'un individu qui entrerait sur le sol européen. Les visages, comment ça fonctionnait, c'est que les visages des personnes, en particulier des demandeurs d'asile, étaient analysés pour détecter si oui ou non ils mentaient. Si le système considérait que la personne était un peu suspecte, les questions devenaient de plus en plus compliquées. Puis éventuellement, ben là, on arrivait à un contrôle plus approfondi par un agent humain. Le dispositif serait officiellement plus utilisé, mais selon l'European Digital Rights, je vais dire le EDR, comme c'est presque impossible d'obtenir des informations dans ce domaine-là, ben c'est difficile de le confirmer. Puis, outre les biais discriminatoires, un autre problème est lié à la collecte de données, qui est nécessaire, là, évidemment, pour que les systèmes de surveillance puissent fonctionner. C'est que cette collecte-là respecte pas le principe fondamental du consentement, qui est d'ailleurs clairement encadré par la loi dans l'Union européenne. Donc, lorsqu'une personne pose le pied sur le sol européen, ses empreintes vont être collectées, qu'elle soit d'accord ou non. Ce qui fait dire à l'European Digital Rights, je l'ai mieux eu, que l'Union européenne est en train de construire deux standards différents. Un pour les personnes qui ont les bons papiers, le bon statut migratoire, et un autre pour celles qui ne les ont pas. La banque de données la plus connue, c'est Eurodac, qui vise à ficher les demandeurs et demandeuses d'asile appréhendés lors d'un passage irrégulier là, à la frontière. En plus des empreintes, ben là, dans ce fichier-là, on trouve des photos pour alimenter justement les systèmes de reconnaissance faciale. Et quand on sait que les conditions d'accès à Eurodac pour les autorités policières ont été assouplies dernièrement, ben c'est encore plus inquiétant. Je vous invite à aller lire l'article d'InfoMigrant qui aborde d'autres problèmes aussi puis qui donne d'autres exemples, qui s'intitule « En Europe, les migrants, premières victimes de l'intelligence artificielle ».
Parce que c'est assez complexe quand même comme sujet. Hein?
Oui, c'est ça. Puis il y en avait beaucoup d'autres. Là, j'aurais pu en parler encore pendant un autre 4 minutes. Mais fait que c'est ça. Fait qu'on reste avec toi, Simon. Mathieu, pardon, en Europe, plus particulièrement dans l'Hexagone.
Oui, on va aller. On reste en Europe, comme tu disais. On va en France. On va parler de protection de l'enfance en premier lieu. Dans une décision, la défenseure des droits s'inquiète de la dégradation de plus en plus préoccupante de la protection de l'enfance en France. C'est tout récent, fin janvier. Tous les jeunes sont concernés par de lourdes défaillances du système et des mineurs isolés étrangers ne font pas exception. Ils réclament depuis des années à l'État une prise en charge plus digne pour sortir de la rue. Elle presse l'État d'agir face aux problèmes observés dans la protection de l'enfance, maltraitance, refus de prise en charge, placement dans des lieux non autorisés par la loi. Le rappel à l'ordre de celle-ci résonne d'autant plus que plusieurs conseils départementaux ont déjà jeté l'éponge. Par le passé et encore récemment et en toute illégalité, certains départements ont décidé de suspendre l'accueil et la prise en charge des mineurs non accompagnés. Faute de place, se défendent-ils? En mai dernier, face à la situation, 27 organisations dont la Ligue des droits de l'homme, Médecins du monde, Médecins sans frontières, etc., avaient saisi le Conseil d'État pour contraindre la France et les départements à respecter les dispositions de la Convention des droits de l'enfant dans l'accueil des mineurs étrangers isolés. C'est généralement sur les trottoirs que ces jeunes étrangers dorment, faute de mieux. Leurs profils se mélangent. Il y a des nouveaux arrivants, mais surtout des jeunes en recours, c'est-à-dire refusés par un département car considéré comme majeur, mais faisant appel de cette décision. Mmh. En attendant la réponse d'un juge pour enfants, il reste dehors sans service d'hébergement fourni. Voilà. Face à ces refus d'accueil pérennes, face au démantèlement de leur campement informel installé dans l'espace public, certains mineurs se tournent alors vers les squats de bâtiments, vers des squats bâtiments. À Paris, depuis presque 2 mois, des centaines de jeunes étrangers, genre 400-500, se déclarant mineurs, occupent les locaux de la Gaîté Lyrique pour réclamer leur prise en charge. voilà.
Qui est un ancien théâtre,
j'imagine. Oui, c'est ça. On parle d'opéra ou d'opérette, là, quelque chose comme ça. en attendant que l'État et les départements investissent dans une démarche conjointe de coordination, comme le recommande la défenseur des droits, les jeunes continuent de se débrouiller seuls et l'aide associative ne suffit pas toujours.
Ben non.
Un exemple, la Cour européenne des droits de l'homme, CEDH, a condamné la France pour absence de protection d'un mineur guinéen. Sa minorité avait été rejetée une première fois par les autorités pour finalement être connue un an plus tard. Durant ce laps de temps, le jeune migrant a été livré à lui-même, soit à la rue. À son arrivée en France en janvier 2020, le jeune Guinéen se déclare mineur et bénéficie donc de l'accueil provisoire d'urgence. Mais finalement reconnu majeur par les services départementaux, il est contraint de quitter son hébergement en mars 2020. La décision avait été justifiée par des suspicions d'inauthenticité des documents d'actes d'état civil, ainsi que sur la base d'une expertise osseuse et dentaire. Hein, c'est très contesté
on a
en France.
Parlé de ça. Ouais. Mais là, en plus, avec l'intelligence artificielle, ça va être pire.
Ça c'est clair. Il n'y aura plus de médecin. En janvier 2021, finalement, la minorité du jeune Guinéen est finalement constatée par la Cour d'appel de Limoges. Voilà. Là, il est correct dans ce cas-ci, mais ça ne précise pas s'il y a eu des compensations.
Ben non,
dans son jugement, la Cour révèle relève l'incomplétude et l'imprécision des informations qui ont été fournies au requérant durant cette période, le privant des garanties procédurales suffisantes. C'est quand même, faut déchiffrer.
Ouais.
Fait que voilà pour la protection de l'enfance. Je voulais rapidement vous présenter deux collectifs de femmes fort différents. Le collectif d'extrême droite Némésis, dont le ministre Bruno Retailleau a salué le combat. Ce groupe identitaire fondé en 2019 qui se revendique féministe est connu pour ses déclarations contre les immigrants. Je cite Retailleau, « Bravo pour votre combat, vous savez que j'en suis très proche. » C'est par ces mots prononcés en conférence de presse le 21 janvier que le ministre de l'Intérieur a félicité la présidente du collectif identitaire Némésis. Face au tollé, Retailleau a fait machine arrière sur le plateau de CNews. Connu pour ses actions coup de poing lors des manifestations, ce groupe identitaire qui se revendique féministe multiplie les provocations, les déclarations xénophobes et anti-immigrés. Il s'est fait connaître lorsque plusieurs de ses membres ont brandi des pancartes évoquant notamment les violeurs étrangers lors d'une marche contre les violences sexuelles et sexistes organisée à Paris par le mouvement féministe « Nous toutes ». La présidente du collectif, Alice Cordier, c'est un pseudonyme, avait aussi ouvert une cagnotte pour payer un billet d'avion aller simple à la journaliste française d'origine marocaine, Nassira El Mouadem, avant de plaider l'humour. Fait que Némésis, on a déjà connu ça au Québec.
C'est des bonnes blagues.
Hein? Ah oui, quoi, c'est des super blagues. Des belles blagues racistes.
Je devrais peut-être aller au bordel avec Martin Petit.
Oui, il devrait être invité en tournée au Québec. Sinon, ben un autre collectif plus sympathique. Depuis le printemps 2024, des femmes originaires d'Afrique de l'Ouest se sont réunies au sein du collectif Combat pour l'hébergement. Le but, obtenir un hébergement décent après des semaines passées à dormir dans les rues de Sainte-Sélénie. Mais le collectif permet aussi à ces exilés de rompre la solitude et de s'entraider dans les moments difficiles. La plupart vivent aujourd'hui dans les hôtels du 115. Ça, c'est un espèce de programme de réquisition des hôtels. Le 115, en Île-de-France. Mais toutes sont passées par la rue et leur situation reste très précaire. La majorité sont sans papier, d'autres en attente de régularisation. Le collectif compte une centaine de familles, des femmes seules, pour la plupart avec ou sans enfants, et parfois le conjoint. L'hébergement d'hôtel reste mieux que la rue, mais les difficultés persistent. Oui. Cafards, espaces étroits, toilettes insalubres, absence de cuisine, logement éloigné de l'école des enfants, isolement, manque de suivi social. Mais je cite une des membres, Aïcha, le collectif nous a beaucoup aidés. Plusieurs personnes ont été relogées. On espère qu'on gagnera d'autres combats dans les prochaines semaines, mais c'est tout récent comme collectif.
Ah, ça fait penser un peu au collectif des femmes de Solidarité sans frontières ici.
Oui. C'est beaucoup axé sur le logement dans
ce cas-ci. Oui, mais
Puis je finis avec une suggestion vidéo pour justement du bon humour, pas l'humour de l'extrême droite antiféministe. Donc, la CIMADE a décerné 9 prix aux préfectures les plus zélées en matière d'enfermement et d'expulsion.
Okay.
On souligne que la concurrence était très, très rude. Du 18 au 23 novembre dernier, des délégations de la CIMADE se sont déplacées devant des préfectures pour leur remettre leurs prix à Bordeaux, Toulouse, Clermont-Ferrand, Cayenne, à Mayotte, Pointe-à-Pitre, en Guadeloupe, Nantes et Béziers. Ça, c'est les 9 préfectures gagnantes.
Okay.
Le 27 novembre, la cérémonie des Charter Awards s'est déroulée à Paris, organisée par la CIMADE.
Ça ne manque pas d'humour.
Ben non. 2024 a été marqué par une triste anniversaire, soit les 40 ans des centres de rétention administrative, les CRA. Depuis leur création, la CIMADE assiste, accompagne, soutient les personnes migrantes dans ces centres et défend leurs droits. 40 années durant lesquelles les préfectures ont enfermé des milliers de personnes, 40 années maillées de pratiques illégales et abusives, puis ça s'améliore vraiment pas, que la CIMADE a souhaité dénoncer en organisant la deuxième édition des Charter Awards. C'est sur lacimade.org pour aller voir les photos, le galop complet est là aussi,
okay.
Puis la remise de prix, évidemment, puis les photos devant les préfectures et les actions qui ont été faites.
Bon, donc, mais merci Mathieu pour cette
suggestion. Fait qu'on était en France!
Ben oui. Et bien sur ça, on va aller en musique aux États-Unis. Avec Macklemore et la pièce Fucked Up. Je vous dis, soyez attentifs aux paroles, je vous en parle au retour. Stand for something to fall for anything. I'm sick. But it's game time. Hey, the world's on fire, we don't know no water, y'all. Inmates hire for a couple dollars, y'all. New era usher, but white supremacy is still in charge. Talking colonizing Gaza from the White House lawn. But the people mobbing, and we ain't backing off. Finally see the oligarchy and men that control us all. Tax breaks for the elite, and then they taxing y'all. Killing Palestinian kids, and we getting hit with the cost. Why the fuck you think you can't afford the rent in your building, and you can't afford groceries and debt in your feelings, and you know how the West thinks. It's all about the West Banks. Call a ceasefire, then start annexing the West Bank. How you think Israel gets money for the best tanks? And Netanyahu loves Trump. He's like, yeah, thanks. That's your money, and yes, it's all connected. And they controlling your feed. The information that they censor, blocking hashtags. Can't say free Palestine. There's 2 weeks in, think where we'll be around July. But you know us Americans out of sight, out of mind, and they know it too. That's why they running game on our lives. But they got me fucked up. They got me fucked up. They got me fucked up. And Elon, we know exactly what that was, bruh. They got us fucked up. They got us fucked up. They got us fucked up. And Elon, we know exactly what that was, bruh. You can buy my mosque, but you can't buy faith. You can't kill people, resistance grows in the wake. And while our president sends billions to Israel safes, ethnic cleansing's never gonna make Israelis feel safe. More blood, more weapons, more money, more oppression, more hate, more fear, more walls and more settlements. The colonizer just spoke to us at the White House. What we said was gonna happen is happening right now. Nah, they marching home. Yeah, that's resilience. Millions celebrating like the world was walking with them. You in the palm of God, no man will ever catch you flinching. They can never burn the olive tree that lives within them. The next 4 years, it's time to ride. Fuck ICE, free Congo, Sudan and Palestine. If you still haven't said shit about the genocide, but your grandkids one day are gonna ask you why. They got me fucked up. They got me fucked up. We'll be right back. Wow, c'était le puissant rap fucked up de l'Américain Macklemore qui est paru ces derniers jours. Moi, ça m'a fait penser, quand j'écoutais ça, à Childish Gambino quand il a sorti sa toune This is America comme type de charge, là. Je vous conseille d'ailleurs de visionner le vidéo qui est tout aussi puissant puis qui a des sous-titres aussi, fait que ça nous aide à suivre un peu parce que ça va vite, puis à prendre la mesure aussi de la charge politique que porte Macklemore. Tous les fonds ramassés par les coûts payantes en ligne sont versés à USAID que Trump et Musk ont brutalement démantelé. On va poursuivre avec un sujet toujours dans le choquant, là, celui du trafic de personnes migrantes à la frontière tuniso-libyenne, dans lequel l'État tunisien serait même directement impliqué. C'est du moins ce que soutient le rapport « Traite d'État, expulsion et vente de migrants de la Tunisie vers la Libye » qui a été présenté au Parlement européen le 29 janvier dernier. Ça a été publié par le collectif RRX, un groupe de chercheurs anonymes soutenu par plusieurs députés européens. C'est un rapport qui s'appuie sur 30 témoignages de migrants, migrantes subsahariens expulsés de Tunisie vers la Libye entre juin 2023 et novembre 2024. Je cite le rapport. D'un point de vue juridique, les témoignages présentés mettent en évidence des crimes contre l'humanité, des détentions arbitraires, de la discrimination raciale et incitation à la haine raciale, des disparitions forcées ou encore de la torture et des traitements inhumains et dégradants. Plusieurs des témoignages récoltés mentionnent des échanges d'argent au moment du transfert des personnes migrantes là, de la Tunisie vers la Libye. Le prix de ces transactions-là oscillerait entre 40 et 300 dinars, ça veut dire à peu près entre 18 et 134 $. Mais les exilés sont aussi échangés contre de la drogue ou du carburant. Les prisonniers vendus sont autant des hommes que des femmes, dont certaines étaient enceintes, des couples, des enfants, puis des mineurs non accompagnés. Puis d'après certains témoignages, les femmes auraient une valeur marchande plus élevée. Une fois sur le sol libyen, les migrants, migrantes sont parqués dans des prisons dans le désert pendant quelques jours, puis ils sont ensuite envoyés dans des centres de détention officiels gérés par le département de lutte contre la migration illégale, qui est formellement rattaché au ministère libyen de l'Intérieur. Ces ventes de migrants à la frontière serviraient aussi comme une sorte de base là, à une seconde transaction opérée plus tard par les geôliers libyens, cette fois-là, qui est celle de la rançon demandée aux familles des prisonniers. Dans les centres de détention libyens, les subsahariens et subsahariennes sont torturés par leurs ravisseurs pour extorquer ensuite de l'argent à leurs familles en échange de libération. C'est épouvantable. Je rappelle que malgré les multiples témoignages et rapports décrivant la situation, la Tunisie et la Libye restent partenaires majeurs de l'Union européenne dans la gestion de ses frontières extérieures. En juillet 2023, on le sait, là, l'Union européenne a conclu un partenariat stratégique avec la Tunisie, prévoyant une aide de 105 millions d'euros pour lutter contre l'immigration régulière et une aide budgétaire directe de 150 millions d'euros. Donc, on pourrait même dire que, dans le fond, l'Union européenne est plus que complice de cette marchandisation des corps et des personnes migrantes.
C'est elle qui finance les refoulements vers la Libye, en fait.
Exact. Donc, Simon, toi, dans un sujet d'autant plus joyeux encore, tu nous parles de crise et de conflit.
Non, ce ne sera pas plus joyeux. Je vais parler de crise humanitaire actuellement en cours dans le monde, mais qui vont se poursuivre avec probablement plus d'intensité encore en 2025. Je me suis principalement basé sur une liste dressée par le Haut Commissariat pour les réfugiés qui recense 7 régions à surveiller. Premièrement, le Soudan. Depuis le début du conflit en avril 2023, 12 millions de déplacés, une situation sanitaire constamment sur le bord de l'effondrement, une des plus grandes crises humanitaires de l'histoire, différentes factions militaires soutenues par plusieurs gouvernements étrangers qui se battent entre elles et contre le gouvernement soudanais pour le contrôle du territoire, des infrastructures, des ressources, avec un niveau de violence inouï envers les civils. Par exemple, cette semaine seulement, 2 villages attaqués par des paramilitaires, 200 morts. Le nombre de morts depuis bientôt 2 ans est estimé à entre 200 000 et 500 000. Donc, le fait qu'on sache même pas la différence de 300 000 entre le minimum et le maximum, ça en dit long sur l'intérêt qu'on porte à la région. Une certaine proportion des décès n'est pas directement attribuable au combat armé, mais au contexte de malnutrition et de crise sanitaire générale qui découle des combats. On a ensuite le Liban qui, avant qu'Israël intensifie son offensive militaire en septembre, souffrait déjà d'une très grave crise économique, crise notamment du coût de la vie qui a poussé des millions de Libanais dans la grande pauvreté. L'attaque d'Israël a consisté à la fois en des bombardements massifs et une invasion terrestre qui a duré environ 2 mois jusqu'à la négociation d'un cessez-le-feu très partiellement respecté. Beaucoup de déplacés, internes surtout, ont pu retourner dans le sud du pays, constater les dégâts, mais beaucoup ont peur et préfèrent rester dans des abris de fortune plus au nord. Le HCR, malgré le cessez-le-feu, ne voit pas de possibilité d'amélioration des conditions de vie des civils à court moyen terme. C'est pourquoi le Liban se trouve dans cette triste liste. Ouais. Ensuite, sans trop de surprise, la Syrie. Comme la plupart des pays qui accueillent des réfugiés syriens, ils sont sur le point de les renvoyer ou ont même parfois déjà commencé à le faire. Donc, on pourrait être tenté de croire que la qualité de vie a été complètement restaurée depuis la chute récente du régime despotique de Bachar al-Assad. Ouais, c'est des pensées un peu magiques, là, disons. Mais ce serait malhonnête de le croire. On sort de 14 ans de crise et le régime actuel est encore tout nouveau et il est loin d'avoir fait ses preuves. Beaucoup d'indicateurs ne sont pas très encourageants et le pays est en lambeaux, point de vue approvisionnement, logement, infrastructure, énergie, services publics. En plus, la guerre en Syrie a été en grande partie fratricide, donc il n'est pas impossible qu'en tournant dans son village, dans son quartier, on côtoie son ancien bourreau ou les assassins des membres de sa famille. Bref, une population polytraumatisée qui a aussi goûté à Daesh. Bref, la reconstruction va être longue et pénible, d'autant plus que l'intense ballet diplomatique qui se déploie autour du nouveau régime laisse présager que beaucoup de puissances étrangères ont encore beaucoup d'intérêt en Syrie. Mmh. Ukraine. Difficile de l'ignorer. Encore 3,5 millions de déplacés internes, des millions de supplémentaires à l'étranger. Avec l'arrivée de Trump qui va mettre tout son poids pour accélérer une fin rapide du conflit à ses conditions et surtout à celles de ses plus proches alliés dont on soupçonne Moscou de faire partie. C'est difficile de prévoir ce qui va se passer en 2025. Ce qu'on sait, c'est qu'à l'heure actuelle, les combats et les bombardements se poursuivent. On sait que le pays en général est dans un état lamentable. On sait que d'un point de vue humanitaire, la stratégie du Kremlin de détruire les équipements énergétiques, comme les centrales électriques ou les réseaux de distribution du gaz pour un quatrième hiver de suite, ainsi que de bombarder les infrastructures de transport. Bref, cette stratégie est l'un des facteurs les plus aggravants d'un point de vue humanitaire. Pas d'énergie, pas de chauffage en hiver, c'est un pays froid à l'Ukraine. Donc, ouais. Juste ce facteur-là en soi est
non,
assez...
Non, la population est épuisée.
Ouais, mentalement, ça doit être insupportable aussi. Autre incontournable, l'Afghanistan, la situation sanitaire selon le Haut Commissariat.
Dont on parle moins quand même.
C'est passé un peu plus sous le radar, effectivement. Le HR dit que la situation s'est légèrement améliorée en 2024, mais on partait de très, très loin. La situation des droits humains, par contre, notamment celle des femmes, de certaines minorités et des opposants politiques, elle demeure extrêmement préoccupante, une des plus difficiles de la planète. Et le gouvernement continue d'adopter des lois de plus en plus liberticides. D'un point de vue strictement humanitaire, il faut passer par les talibans, sinon l'aide ne se rend tout simplement pas. Et c'est très difficile ensuite d'avoir leur juste, à savoir est-ce que l'aide est correctement distribuée, est-ce qu'elle est monnayée.
C'est ça, il y a des seigneurs de guerre là-dedans aussi, probablement.
Exactement. Donc, en 2025, le HRR ne voit pas l'avenir avec beaucoup d'enthousiasme pour l'Afghanistan. Toujours dans cette même liste vient ensuite RDC, République démocratique du Congo, qui n'arrive pas à mettre un terme à des décennies de conflits armés. Après une relative accalmie, il y a eu résurgence des violences en 2024. Actuellement, plus de 8 millions de déplacés internes et externes, souvent dans des camps dangereux, surpeuplés et insalubres, qui sont des épicentres de l'exploitation humaine. Peut-être pas aussi organisés qu'en Libye, mais tout de même. Et qui sont aussi ces camps-là des foyers de transmission des maladies infectieuses. Comme la plupart des pays qui composent cette liste, les conséquences du dérèglement climatique se font particulièrement sentir dans le centre de l'Afrique. Il y a plusieurs parties impliquées dans les combats actuels, les paramilitaires du M23, le gouvernement local, ceux du Burundi et du Rwanda qui s'en mêlent de plus en plus, et les développements des derniers jours font craindre un embrasement régional.
Ouais.
Septième et dernière crise humanitaire à surveiller en 2025, selon le HCR, c'est la situation pratiquement oubliée des grands médias que vivent toujours les réfugiés Rohingyas, originaires du Myanmar et dont les camps au Bangladesh sont de plus en plus sous pression. Je rappelle que la crise a déjà 7 ans et rien ne laisse présager une régularisation de masse des réfugiés par le Bangladesh, encore moins un retour au Myanmar qui s'enfonce de son côté dans une guerre civile et surtout pas non plus une collaboration de l'Inde pour accueillir ces réfugiés sous la férule du président maudit dont l'islamophobie est loin de se calmer. Contrairement aux camps au Congo qui manquent d'eau, au Bangladesh, les camps de réfugiés souffrent de la surabondance de l'eau. Inondations, glissements de terrain, il faut dire que les endroits où le gouvernement bangladais tolère les camps, ce sont souvent directement dans des marécages à proximité des zones de décharge. Donc voilà qui complète la liste du Haut-Commissariat des 7 crises humanitaires à surveiller en 2025. On va surveiller évidemment aussi Gaza, Yémen, Haïti, Venezuela, Cuba, etc. D'autant plus que le droit international et l'aide humanitaire sont en train de s'effriter sous l'impulsion de Washington, avec entre autres le retrait de l'OMS et le démantèlement de USAID.
Oui, c'est ça, comme je disais.
Dont tu parlais tantôt.
Ouais. Merci, Simon. On va avoir beaucoup de sujets à traiter dans les prochaines émissions. Il y a, Mathieu, tu voulais ajouter quelque chose sur la RDC?
Oui, entre autres sur la RDC. Aujourd'hui, on a appris qu'il y a des troupes ougandaises qui sont rentrées dans le nord du Congo, la RDC,
okay.
Pour rajouter à ce qui se passe dans l'est là, avec le Rwanda puis le Burundi. Fait que je t'aurais me demander s'il n'y a pas un plan de démanteler la RDC. Là, c'est vraiment terrible. Là.
Difficile à dire. Je ne sais pas si c'est une région où il y avait beaucoup de camps de réfugiés, mais je crois que oui.
Oui, dans le nord. Il y en a en Ouganda des camps pour les Congolais, justement. Ah oui, non, ça va vraiment pas bien. C'est terrible.
Bon, merci de ce supplément d'information.
Quelques coups de casserole, Mathieu?
Ah oui, donc.
Ce sera un petit agenda. Ma première suggestion, c'est l'exposition intitulée « Ota, ici, Utte » à la Maison de la culture Jeannine Souteau à Montréal jusqu'au 16 mars. Les œuvres qui sont présentées sont le résultat d'une collaboration interculturelle entre l'artiste pluridisciplinaire atikamekw Jacques Néouachiche, la poète Innu Maya Cousineau-Molène et la photographe québécoise Christine Bertion. Le concept est simple, une photo, une toile, un poème, donc des genres de triptyques multidisciplinaires dans lesquels les artistes racontent leur perception de 12 personnalités marquantes originaires du territoire québécois et fiers de leurs identités respectives. On retrouve par exemple Ghislain Picard, Gilles Vigneault, Joséphine Bacon, Armand Vaillancourt, etc. L'objectif est de briser les barrières qui existent entre autochtones et Québécois-Québécoises. C'est donc jusqu'au 16 mars à la Maison de la culture Jeannine Souteau au métro Frontenac. Là, des fois j'enlève.
Mets les airs à bonne place.
Et bien, comme on est en février, je vous invite à aller consulter la programmation complète du mois de l'histoire des Noirs. Il reste quand même quelques semaines. Une semaine et demie, disons, qui se poursuit jusqu'à la fin du mois de février. Il reste surtout des expositions, dans différents endroits de la ville, mais il y a aussi du cinéma, dont une soirée en ligne à laquelle vous pouvez assister dans le confort de votre salon et qui s'intitule « Lumière, caméra, héritage, célébrons les histoires noires à l'écran ». C'est gratuit et en anglais. Le 28 février de 19h à 21h, et vous devez vous inscrire directement là, sur la page de l'événement. Il y a aussi une pièce de théâtre qui s'intitule « Vierge » et qui raconte avec humour l'histoire de 4 jeunes Canadiennes d'origine congolaise dans leur quête du christianisme, de la virginité et des hormones de l'adolescence. Je vous lis le descriptif. C'est au studio du Siegel Center for Performing Arts. C'est chemin de la Côte-Sainte-Catherine. Il y a plusieurs représentations, donc je vous invite à aller voir. Ça aussi, c'est en anglais. C'est payant. En revanche, les billets sont 40$ ou 28$ pour les étudiants et étudiantes. Pour toute la programmation, visitez le www.moihistoiredesnoirs.com. Et je termine avec une suggestion de lecture, toujours en lien avec le mois de l'histoire des Noirs. Il s'agit d'un article de Tamara Termitus titré « Avoir le spleen en ce mois de mémoire » que Pivot, le média en ligne Pivot a publié le 4 février. Elle revient sur le discours inaugural de Trump dans lequel il a annoncé là, sa guerre aux politiques et programmes d'équité, diversité, inclusion, là, EDI, en prétendant se fonder sur le discours de Martin Luther King, disant vouloir, je cite, « forger une société qui ne tient pas compte de la couleur de peau », le fameux « colorblind », et qui est basé sur le mérite. Et donc, dans son article, Tamara Termitus démontre là, cette idée fallacieuse de mérite et dénonce la charge anti-EDI, en plus de rappeler là, que la lutte contre le racisme n'a jamais été autant d'actualité.
Oui, en effet. Ouais, une société post-raciale selon Trump, c'est le fun.
Oui,
hein?
C'est ça.
Ouais, ouais.
Il y a plein de compagnies qui embarquent, qui rejettent, qui retirent leur politique d'inclusion actuellement. Là, je pense que j'ai vu Delta Airlines et Costco sont à peu près les seuls qui les ont conservés. T'sais.
Pour l'instant.
Pour l'instant. Oh.
Ah, 1 heure est si vite passée en votre charmante compagnie.
Surtout
Mathieu
quand t'animes, Marie-Ève.
Oui, j'anime bien.
Ah, c'est suave.
Avec des R ou sans R?
je vais retravailler mon placement de R, par exemple. Alors, il me reste à vous inviter à écouter sur nos autres balados disponibles sur notre page du site de choc.ca ou encore sur notre propre site Internet.
Chanoine Marie-Ève.
www.apatridesanonymes.info. Je vous rappelle que nous sommes aussi diffusés sur les ondes FM du 107.9 de Radio Victoria 2 fois par semaine. Écrivez-nous à apatridesanonymes@commercialresist.ca et suivez notre page FB avant qu'on décide de jeter ça aux poubelles.
On va finir par se brancher.
Merci Mathieu et Simon pour votre répartie malgré la lourdeur des sujets dont on traite à l'émission.
Merci à toi, Marie-Ève. Merci, Mathieu.
Merci à vous deux. C'est une très belle émission.
La prochaine émission, le 6 mars, va être en formule duo masculin, sans moi, donc.
OK. On va être Simon et Mathieu.
C'est oui. Cela. Alors, on va se quitter en musique avec le trio montréalais d'inspiration Krautrock, You Do Right, et la pièce Ponder's End, qui est tirée de leur album From the Heights of Our Pasture Land, paru en novembre dernier. Alors, on vous souhaite bonne écoute et bonne soirée.
Bonne soirée.